Bon, ce résumé, je crois, nous inspirer à tous des questions, des choses qu'on voudrait approfondir. Je cite peut-être un peu en vrac certaines de ces questions, et après on y reviendra, on en traitera peut-être une ou deux aujourd'hui. Tout d'abord, la première question, c'est celle du chômage. Comment c'est possible? D'où vient ce chômage formidable qui apparemment est devenu structurel dans nos sociétés? La deuxième question, c'est à propos de cette fameuse médecine néolibérale, comprendre un peu mieux qu'est-ce que c'est cette fameuse déréglementation. Alors, tu disais qu'il y avait une question à poser à propos du chômage, et tu voulais approfondir quelque chose à propos du chômage.
Oui, pour commencer, la nouveauté de ces dernières 2 décennies, c'est que le chômage a gagné des pays industrialisés à des taux extrêmement élevés qu'on n'aurait jamais imaginé il y a 20 ans seulement. On est habitué à considérer le chômage comme un phénomène typique des pays du tiers-monde, des pays sous-développés. Alors qu'aujourd'hui, dans des pays comme les nôtres, on a des niveaux de chômage entre 6, 10, 15, 20% selon les pays. Et on en considère ça presque normal. Pas 40 millions, 40% du chômage des jeunes.
Attends, c'est ça. Non, je m'excuse, mais j'ai entendu dire le chiffre de 40 millions pour l'Europe, c'est juste? Vous savez quelque chose?
Non, c'est excessif.
Non, non. C'est le chiffre de l'OCDE. Et puis j'ai une autre question. Qu'en est-il de la Suisse? Parce qu'en fait, en Suisse, il y a relativement peu de chômage. Ouais, je pose la question pour la Suisse parce que quand on parle du chômage, on parle maintenant un peu du chômage des autres, vu qu'il n'y a pas tellement de chômage ici, tu vois.
Oh non, pour la Suisse, le problème est assez clair. C'est que, premièrement, on a exporté une partie de notre chômage quand on a renvoyé les travailleurs étrangers chez eux. Et deuxièmement, c'est que la structure économique de la Suisse est très très particulière, qui a une hypertrophie du secteur tertiaire, c'est-à-dire des services, et notamment des services bancaires et financiers, qui eux, et jusqu'à maintenant, même au travers du krach boursier de l'automne dernier, n'ont pas été touchés par la crise comme a été touché le tissu industriel. Il faut bien dire qu'en Suisse, le tissu industriel a aussi été touché et que les pertes de postes de travail se sont chiffrées à peu près 10, 15 et 20% suivant les branches industrielles. Donc des chiffres tout à fait voisins des pays qui nous entourent.
Et à propos des services, je crois que la Suisse ne paie rien pour attendre, puisque il y a pas mal d'études qui disent que la Suisse ne sera pas une place bancaire ou financière très importante d'ici 10-20 ans. Je ne sais pas ce que tu en penses, Ferruccio, de ça, mais j'ai lu quelques études comme ça, notamment dans le Financial Times.
Il est clair que la concurrence s'exerce aussi dans ce domaine, comme elle s'exerce dans le domaine de la consommation, de la production de biens, de la concurrence entre les États. Donc les services financiers vont aussi souffrir de cette concurrence, et donc on se rabattra sur l'automatisation des services financiers comme dans toute autre branche.
J'aimerais revenir sur cette question du chômage qui touche maintenant, ce serait une nouveauté que ça touche les pays industrialisés eux-mêmes. C'est peut-être une nouveauté pour le passé récent, c'est-à-dire pour l'après-guerre, mais il faut quand même se souvenir qu'au 19e siècle, et encore dans les années 1930, le chômage a touché et comment tous les pays industrialisés.
Là, justement, on se rapproche d'une autre des questions qu'on a posées tout à l'heure. C'est, enfin, aussi du temps, comme tu as présenté le résumé, c'est qu'on est à la fin, apparemment, d'un cycle de développement et qu'on ne s'en sortira pas de ce problème du chômage aussi rapidement qu'on peut imaginer.
Oui, certainement, il y a 2 phénomènes convergents. D'une part, il y a une économie qui commence à produire des choses dont on n'a presque plus besoin et qui coûtent partout pareil, et on le fait sur des grandes séries en grande masse. Donc, si les profits baissent, il faut bien réduire les coûts. Donc, on commence par éliminer des gens. D'autre part, les nouvelles technologies demandent beaucoup moins de monde, du moins au début de la phase d'introduction de la technologie, et demande des niveaux d'instruction et de culture de base sensiblement supérieurs à ce qu'on demandait il y a 10 ans, 20 ans. Alors il y a un double effet. D'une part, on élimine pour réduire les coûts. D'autre part, on élimine parce qu'on n'en a plus besoin à ce niveau de culture, ce qui fait que les deux choses s'additionnent. Et on a donc des socles de chômage structurel qui sont généralement, qui affectent généralement les gens qui ne sont pas adaptés à ce genre de technologie ou de qualification qu'on demande aujourd'hui, dont on ne sait pas quoi faire. À la limite, on peut en recycler quelques-uns, mais la plupart du temps, on les envoie à la retraite anticipée. On les recycle dans des emplois de service, tant que ça dure, et alors on leur fait faire des stages pour couvrir les statistiques officielles du chômage, comme on fait par exemple en France.
Et puis je pense qu'il y a un troisième élément, c'est que si on a besoin de main-d'œuvre peu qualifiée, on a meilleur temps d'aller les chercher à Taïwan ou en Corée du Sud ou Thaïlande que continuer d'employer des gens en Europe.
Disons que la tendance était vraie jusqu'à il y a quelques années, mais aujourd'hui on peut trouver cette même main-d'œuvre très bon marché partout à New York. À New York, vous avez ce qu'on appelle les sweatshops. Ce sont des usines dans la ville même de New York où les gens vivent clandestinement, travaillent clandestinement et sont payés des misères. Aujourd'hui, un serveur de McDonald's peut gagner $3.50 de l'heure, alors qu'un ouvrier spécialisé d'il y a 10 ans, 15 ans coûtait $24 de l'heure. Donc il y a eu une déqualification au niveau des salaires, une déqualification au niveau des spécifications du travail, et en même temps une décrue des salaires dramatique même dans les pays industrialisés. Ça n'empêche pas que si on doit payer encore moins cher la main-d'œuvre, d'abord on ira par exemple des États-Unis au Mexique ou de Hong Kong à la Chine. Parce qu'on a encore un facteur de 3-4 au niveau des salaires.
En allant de Hong Kong vers la Chine?
Certainement. Si l'employé de Hong Kong coûte $1 ou $2 de l'heure, un Chinois coûte 50 centimes la journée.
Bon, moi je vois qu'il y a la question de la compression des coûts, qui est une cause du chômage. Il y a la nécessité du recyclage, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que les gens doivent être plus qualifiés qu'avant. Mais... Il me semble qu'il y a un autre facteur qui est extrêmement important, c'est comme la productivité a augmenté énormément, je crois qu'elle augmente, je sais pas, même plus que 5% par an, en moyenne, la productivité. Forcément, on produit de plus en plus de choses avec moins de gens, donc il y a besoin de moins de gens dans l'appareil de production, ça c'est un problème fondamental, je me demande comment on va s'en sortir autrement qu'en faisant que chacun travaille moins.
Oui, ça c'est une question plus fondamentale, je crois, que tu poses là.
J'aimerais pas répondre à cette question là, j'aimerais revenir en arrière parce que je trouve que la façon dont cette question sur le chômage a été introduite par notre ami Ferruccio me plaît pas, quant à moi. Dans la mesure où on a relié ça à la question du cycle économique qui arrive à maturité ou qui est arrivé à maturité et qui fait que les produits ne se vendent plus, que la restructuration épargne des emplois, et que par conséquent, finalement, le chômage devient une question de quasi-déterminisme technique ou scientifique ou machiniste, et que par conséquent, la place de l'individu ou du rapport d'un individu avec les autres n'est plus déterminante pour résoudre cette question du chômage. Dans la manière dont on l'a présenté jusqu'ici. Et je crois qu'il y a d'autres manières de présenter le chômage, donc de présenter la crise, sans nier de façon descriptive qu'il existe des cycles, on peut les nourrir d'autres images et d'autres valeurs qui les font parler de manière un peu plus dynamique. Et je pense notamment au fait que, dans l'après-guerre, on en a dit juste un petit mot tout à l'heure, on a passé de manière systématique, presque standard, à des productions sur grande échelle, pour un public de consommateurs à grande échelle aussi, ce qui a fait la standardisation mondiale de la production, de la consommation et des échanges. C'est un peu cette logique qui a été mise en place dans l'après-guerre, qui maintenant arrive à épuisement, et il faudra voir... dans la suite des questions, comment on peut reprendre ce type d'approche-là?
Disons que le chômage est un phénomène contingent à l'échelle des prochaines 10-15 années, mais c'est quand même un chômage qui est le résultat de ces deux convergences dont je parlais tout à l'heure, et qui va être certainement réabsorbée dans le futur, pour deux raisons fondamentales d'ailleurs. D'abord parce que les choses étant ce qu'elles sont, il y a une décroissance démographique assez accentuée dans les pays industrialisés. Et deuxièmement parce que ces nouvelles technologies, ces nouvelles spécialisations vont certainement créer d'autres emplois dont on ne connaît pas encore la nature aujourd'hui. Ça n'empêche pas que pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, il y aura des poches énormes de chômage qui sont le résultat de ces transformations d'un cycle à l'autre, ou d'une société à l'autre, ou d'une structure sociale à une autre.
Mais moi, j'aimerais quand même reposer la question que posait Nicolas tout à l'heure. Si on admet que la productivité augmente année après année depuis bien longtemps maintenant, et que cette nouvelle révolution de l'automatisation, etc., va encore faire bondir cette productivité, si on admet par ailleurs que la solution, bon, là j'anticipe peut-être un peu, mais que la solution pour nos sociétés n'est pas de faire croître de façon illimitée la consommation en produisant tout et n'importe quoi pour avoir le plein emploi, ça, il me semble que on peut dire a priori, la seule solution, de toute façon, c'est que les gens travaillent moins. Alors, comment est-ce que c'est possible dans le système économique qu'on a actuellement, ou est-ce que la seule possibilité pour le système économique, le système de crédit, d'argent, le système industriel tel qu'il fonctionne maintenant, est-ce que dans ce système-là, la seule solution n'est pas la croissance, donc de nouveau le plein emploi, mais en produisant des quantités de choses, pas parce que les gens en ont besoin, mais parce que c'est la seule façon de faire tourner la machine économique.
Je relativiserai les choses parce que quand on parle de croissance de la productivité, de nouveau, ce n'est pas un phénomène de ces dernières années, c'est un phénomène depuis le début du siècle. Et la crise de 1930 est là pour nous enseigner que lorsque la productivité augmente plus rapidement que la capacité d'absorption du marché, il y a crise de surproduction. Bien. Dans l'après-guerre, la productivité, depuis les années 45 jusqu'aux années début des années 70, donc déclenchement évident ou visible de la crise, la productivité a augmenté à des taux faramineux. Et pourtant, il n'y a pas eu de surproduction. Pourquoi? Parce que la capacité d'absorption des marchés a augmenté à la même allure. Et qu'il y a eu là une logique économique, pourrait-on dire, intégrée. On s'est arrangé, ou plus exactement, les détenteurs de capital se sont arrangés pour que la distribution de ce capital soit relativement large, notamment auprès de la population salariée, pour que ces mêmes salariés puissent racheter les produits qu'ils avaient pu contribuer à fabriquer. C'est ce qu'on a appelé du nom du Fordisme, puisque c'est Ford qui le premier avait eu cette idée-là. Bien. Ceci dit maintenant, ce qui se passe, c'est que la productivité semble se remettre à accroître avec un écart positif vis-à-vis de la croissance de la capacité de consommation des gens, non seulement dans nos pays, mais à l'échelle mondiale. Et que cet écart ne peut pas évidemment être supporté, en tout cas pas longtemps. Ceci dit, rien n'empêche d'imaginer des situations où on pourrait, par quelques nouvelles techniques ou nouvel accord politique ou social, refaire augmenter rapidement le pouvoir d'achat de la population pour contrebalancer les taux de productivité. Dans cette hypothèse-là, on n'aurait pas besoin de diminuer la durée du travail pour résorber le chômage. Il est vraisemblable néanmoins qu'il faudra la diminuer ou que c'est une des solutions les plus évidentes. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, théoriquement, ça n'est pas nécessaire.
Non, je suis tout à fait d'accord. Théoriquement, on pourrait imaginer, comme tu dis, de nouveau un équilibre entre la demande et la production, c'est-à-dire entre les salaires que les gens ont à dépenser et puis les choses qui sont sur le marché. Mais la question que je posais, au fond, c'était par rapport à un troisième terme qui est le problème écologique. Est-ce qu'on a envie de revenir à ce système? Ce système est tombé en panne. Est-ce qu'on va vraiment essayer de relancer la croissance, comme tout le monde dit? Ou est-ce qu'il ne faut pas profiter du fait que la machine est tombée en panne pour peut-être penser à un autre système qui nous amènera pas dans 20 ans ou 30 ans à un autre crise et surtout qui n'amènera pas à une crise écologique majeure, enfin, et encore plus majeure que celle qu'on vit maintenant.
Non, mais pour l'instant, la situation, concrètement parlant, est la suivante. Il y a un grand déséquilibre entre ce que Jean-Noël disait était comme étant l'offre, et d'une part, et la demande d'autre part. Il y a un choix difficile à faire au niveau des investisseurs, des détenteurs de capitaux, des industriels, c'est de savoir à quel point faut-il sacrifier la demande, pour moderniser l'offre. Donc on se dit qu'il vaut mieux avoir des chômeurs ou dans le meilleur des cas, des gens qui ont un salaire minimum qui leur permettent de consommer, mais que la plupart de l'argent dont on doit disposer doit aller dans la modernisation des structures industrielles et des productions. Donc, c'est un choix qui a été fait récemment, il y a quelques années, et qui maintenant est porté à terme parce qu'il faut moderniser. Si on admet que les structures industrielles et les productions classiques sont, disons, obsolètes, automatiquement, il faut admettre qu'il faut les moderniser. L'argent, il faut le trouver quelque part. Une partie de l'argent, on le trouve en réduisant les coûts. Réduire les coûts, ça veut dire réduire les salaires, déréglementer, les rapports de travail, mettre des gens au chômage, et éventuellement les sortir du circuit économique carrément, on les oublie. Aujourd'hui, dans les statistiques, on oublie beaucoup de monde. Donc, dans beaucoup de pays, le chômage officiel n'est le chômage que des gens qui sont enregistrés et on ne calcule pas les gens qui sont hors de toute statistique. Donc, le choix actuel, c'est qu'il faut moderniser. Pour moderniser, il faut sacrifier, il faut prendre l'argent là où il est. Une partie de l'argent est sous forme de salaire qu'il faut réduire. Et automatiquement, on se contente donc d'éliminer des gens du circuit économique, temporairement peut-être, c'est-à-dire on les sacrifie pour l'instant.
Je t'arrête là, Ferruccio, parce que ce que tu viens de dire, ça, c'est la logique des capitalistes.
C'est un processus qui est en cours, j'en fais pas une philosophie, c'est ce qui se passe. Ah
ouais. Exact, je ne dis pas que ça se passe pas, mais...
Je ne suis pas d'accord ou en désaccord, c'est ce qui se passe.
Voilà. Mais il faut bien voir que ce qui se passe est dirigé par quelqu'un ou par des groupes ou par des fractions du pouvoir économique et que ce n'est pas n'importe qui. Quand Olivier disait tout à l'heure « on », qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va admettre une nouvelle société de croissance ? Ou est-ce que à cause de la crise écologique, il ne faut pas mettre le holà à ces débordements ? Le « on » est très mauvais pour décrire une situation parce que c'est jamais anonyme tout ça.
D'accord.
Il s'agit d'un rapport entre personnes qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes. Alors, pour en revenir à Ferruccio et au fait qu'il faudrait prendre l'argent où il est, moi je rétorque tout de suite, il y a de l'argent de façon pléthorique aujourd'hui. Non seulement les entreprises qui ont subsisté font des bénéfices, mais il y a cette source gigantesque d'argent frais immédiatement disponibles que sont, dans les pays industrialisés, les caisses de retraite professionnelles. Et que c'est un argent qui est disponible pour l'épargne, donc pour l'investissement, y compris industriel, et qui actuellement n'est pas placé, faute de demandeurs d'argent. Donc je crois que le problème posé à la manière libérale, ou néolibérale, ou capitaliste, comme on voudra l'appeler, c'est de la poudre aux yeux, à ce stade-là.
Nicolas ?
Oui, je voulais faire un petit palier dans la discussion. En fait, on peut constater maintenant que le problème principal qu'on a, ce n'est pas un problème de production parce que la machine productive s'est développée à une vitesse incroyable, mais il semble plutôt un problème de distribution. Et puis la question, effectivement, c'est qui fait les choix ? Parce que il y a toutes sortes de choix de sociétés qui ont été faits, mais je ne me souviens pas de les avoir faits moi-même, ni aucun des millions de chômeurs qu'il y a en Europe. Parce que si on avait eu un peu la possibilité de dire notre avis, je pense qu'on ne serait pas allé dans ce sens-là, quoi. Et puis, la question que je voulais poser, c'est qu'on parlait de la demande. Mais dès qu'on parle de demande, il faut parler de demande solvable. Qui est une nuance très très importante, c'est-à-dire on assiste au fait qu'il y a énormément de besoins qui existent mais qui ne sont pas solvables. Je parle rien qu'en général, par exemple, la faim dans le monde... Si elle existe, c'est parce qu'il y a une demande d'aliments qui n'est pas solvable. Et puis, il y a beaucoup de non-besoins, mais comme ils sont solvables, ils trouvent à se réaliser économiquement comme l'armement pléthorique comme il se développe actuellement. Alors la question que je pose, ça nous amène vers une question qu'on posera plus tard, c'est est-ce que l'argent est un bon indicateur des besoins actuellement? Et puis justement, quel est le rôle de l'argent dans le problème du chômage dont on parle maintenant?
Tu parles là de distribution, Nicolas, et tu dis, est-ce que c'est pas ça le problème de la crise aujourd'hui? Le terme distribution pourrait, pour en tout cas beaucoup d'auditeurs, signifier les questions d'acheminement des produits du producteur au consommateur, avec tous ses canaux, sa publicité, etc.
Ah ouais, non, c'est pas
Or,
vrai, c'est pas ça.
il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit bien dans ton esprit de la répartition des richesses
Entre nous.
entre nous, ou plus exactement, entre les habitants de cette planète.
Exactement.
D'accord.
Question chômage, ce n'est pas question d'avoir le dernier mot, mais il y a un problème fondamental qui se pose aujourd'hui au niveau du chômage. Si on fait une statistique des chômeurs, qui est chômeur surtout aujourd'hui dans les pays industrialisés? Quel est le niveau de, quelle est la corrélation entre taux de chômage, par exemple, et niveau culturel ou adaptation au nouveau métier ou capacité de changer de métier? Parce que on se rend compte qu'une grande partie du chômage aujourd'hui, ce sont des gens qui ne sont plus adaptés à la nouvelle série de nouvelles professions qui se sont pointées depuis 10 ans, 15 ans. Donc il y a une relation certainement directe, qu'on peut prouver par des chiffres qu'on n'a pas actuellement en main, entre taux de chômage et niveau de culture moyen, ou type de culture. Je parlais récemment avec des gens qui s'occupent de ce genre de problème en France, une agence spécialisée du gouvernement. Il me disait qu'aujourd'hui, l'industrie pousse elle-même à un niveau de culture moyen qui correspond à la maturité, quitte à se charger elle-même de spécialiser ses ouvriers, ses employés, ses techniciens en cours de route. Aujourd'hui, on demande une culture surtout flexible, c'est-à-dire qui puisse permettre à qui que ce soit, à quelque niveau que ce soit, de changer de métier éventuellement ou de changer de direction deux, trois, quatre fois dans sa vie professionnelle. Donc, on a une exigence culturelle qui n'était pas la même d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc, on peut dire même qu'aux États-Unis, aujourd'hui, on demande un niveau de culture d'au moins 13 années de scolarité, 13 années et demie, et ça augmente chaque année. Donc, j'imagine qu'il faudra faire une relation entre taux de chômage et niveau de culture un peu partout dans le monde, mais surtout dans nos pays.
Tu as tout à fait raison, Ferruccio, de porter l'accent sur qui est chômage aujourd'hui, parce que c'est vrai et maintenant reconnu par tout le monde que c'est comme la fable de l'argent. Les riches auront encore plus de richesses et les pauvres encore plus de pauvreté. Les chômeurs sont les plus défavorisés dans chaque catégorie. Alors, tu cites le niveau d'instruction, c'est évident que ceux qui ont le moins d'instruction sont le plus menacés par le chômage. Mais il y a aussi d'autres motifs d'être défavorisés, notamment celui d'être femme, parce que dans la structure des relations sociales et économiques, les femmes ne sont pas encore sur le même plan que les hommes. Donc les femmes sont menacées par le chômage, et le taux de chômage des femmes est beaucoup plus élevé que celui des hommes. Et puis les jeunes, qui n'ont pas encore eu la possibilité d'entrer dans le circuit, qui n'ont donc pas de référence, qui n'ont pas fait leurs preuves, et que on laisse au pas de la porte parce que, ma foi, il faut qu'ils se débrouillent autrement. Donc on a des catégories très précises de gens défavorisés et qui seront touchés en priorité par le chômage.
Oui, puis j'aurais souligné aussi un autre aspect du chômage qui me semble très important, c'est que même si on imagine une société où il y a des époques où on n'arrive pas à éviter un certain taux de chômage, ce chômage peut être géré de différentes manières, on peut s'arranger de différentes manières, mais actuellement, moi, je le vois utilisé comme arme d'une violence extrême contre les gens qui n'ont aucun pouvoir, d'une part pour discipliner les gens au travail, pour créer un véritable terrorisme contre lequel on est encore très démunis, quoi.
Et puis quand on parle de flexibilité, moi j'en sais quelque chose parce que je suis un peu dans l'éducation, on le présente toujours ça comme quelque chose de merveilleux, l'ouvrier de l'avenir changera X fois de métier pendant sa vie et tout, mais c'est aussi une nouvelle pression, une nouvelle exigence qu'on a, si on admet qu'on aime son travail comme certains cadres peuvent le faire, enfin, certains privilégiés le faire, bah, tant mieux. Celui qui choisit de changer de métier, c'est merveilleux. Mais si on va imposer ça à presque toute la force de travail, de changer parce que ça arrange le patron dans 3, 4, 5 travaux, tout aussi aliénés les uns que les autres et aussi aliénés que ceux qu'on a connus dans le passé, alors je me dis aussi que ça, c'est une chose qui devrait se payer. Je veux dire, il n'y a pas de, c'est un stress, je veux dire, c'est l'inquiétude, est-ce que mon boulot existera encore dans 5 ans? Est-ce que je dois prendre des cours du soir pour apprendre l'informatique? Moi, je vois autour de moi plein de gens qui vraiment se font du mauvais sang, qui font des heures supplémentaires non payées, qui se forment parce qu'ils sentent que c'est plus comme autrefois. On a plus son apprentissage en poche et puis on est tranquille au moins. On est aliéné, mais on est tranquille jusqu'à 65 ans.
Je crois que là, c'est un rêve de croire qu'on peut arrêter tout et vivre tranquillement pendant 20 ans avec la même spécialisation ou dans la même société.
Mais avant, c'était le vrai. C'est ça que je dis. Avant, c'était vrai. Puis si c'est plus vrai, ah ben alors. Non, et il faudrait aussi que ça se paye.
Ça allait tout simplement plus doucement. Mais aujourd'hui, on vit une accélération de toutes sortes d'événements qui portent à trouver comme remède quelque chose de plus fondamental encore.
Tout à fait.
Pourquoi les gens trop spécialisés aujourd'hui ne trouvent que très difficilement un travail lorsqu'ils ont perdu leur travail? C'est parce que leur flexibilité, ça ne veut pas dire flexibilité de changer de travail, mais de s'adapter à un nouveau travail est presque nulle. Or, ce qu'on demande, et là on introduit le problème de l'école d'aujourd'hui, c'est que l'école puisse donner un moyen aux gens de survivre au mieux de leurs possibilités, non parce qu'ils sont des génies, mais parce qu'ils ont les clés pour ouvrir de nouvelles carrières, ce qui ne veut pas dire changer radicalement de métier. Généralement, on ne change jamais radicalement de métier. On bouge petit à petit d'un travail qu'on avait commencé au début en y ajoutant des segments de connaissances et d'expériences pour déboucher à la fin sur un travail qui, au bout de 10 ans, est très loin du premier qu'on avait pris. C'est ce qui m'est arrivé, j'ai changé 3 fois de métier dans ma vie, mais j'avoue franchement, j'ai pu le faire parce que j'ai eu des bases qui m'ont donné cette flexibilité d'approche, qui m'ont permis de cueillir des opportunités qui me convenaient. Donc ce n'est pas le changement radical, on passe d'une spécialité à une autre qui n'ont aucune relation entre elles. C'est une façon de dire pour signifier que l'on ajoute au fur et à mesure de nouveaux instruments, de nouvelles expériences, parce qu'on en a les moyens intellectuels. Et pour intellectuel, je dis des connaissances précises au niveau culturel, scolaire, etc. Et je me demande si l'école d'aujourd'hui n'est pas en train de former des chômeurs.
Alors, ça, c'est certain. Hein. Je crois que personne ne fait des doutes là-dessus. Mais je pense que, je dis encore une fois, toi, justement, tu es parmi ces cadres privilégiés dont je parlais tout à l'heure, qui a changé des métiers, et qui a eu du plaisir sans doute à le faire, parce que tu travailles à un certain niveau, tu as un certain plaisir dans ton travail. Mais pour monsieur tout le monde qui doit bosser à l'usine, moi je dis, et s'il doit en plus avoir l'insécurité, en plus de toutes les aliénations qu'il avait avant, en plus avoir cette insécurité radicale de savoir que son usine sans doute aura une toute autre allure d'ici 10 ans, et qu'il doit avoir le stress d'apprendre quelque chose de nouveau, parce que si ça ne l'intéresse pas, c'est un stress, ben, je trouve que c'est une chose aussi qui devrait se payer. Ou alors on, comme tu disais tout à l'heure, on devrait décider que ça ne se passera pas comme ça, ou qu'il y aura des compensations, ou plus lentement, ou bien, et puis finalement, pourquoi est-ce qu'on forcément on va changer? Pourquoi est-ce qu'on changerait?
Une raison de plus pour que ce monsieur de l'usine, moi, toi et n'importe qui dans ce contexte, dans ce cadre, nous demandions à ce que nous puissions disposer en permanence de structures telles qui nous permettent d'accéder à de nouvelles connaissances. Donc on soit maître de nos décisions.
On parle sans arrêt de choix de société, et je crois que c'est une question qui va nous entretenir encore souvent ici. C'est qui fait ces choix de société? En fait, maintenant, on est mis devant des faits accomplis. Accompli par qui, comment, ça j'aimerais bien le comprendre mieux, parce qu'on est soi-disant dans des démocraties, donc soi-disant les choix déterminants sont faits par nous, donc il fallait voir comment c'est pas vrai, et comment on pourrait se mettre en mesure de pouvoir faire nous-mêmes ces choix. Moi je pense que c'est une question qui sort, parce qu'on dit toujours On devrait faire ci, on devrait faire ça, et puis c'est jamais clair si c'est les détenteurs du pouvoir actuel qui par exemple font le choix de moderniser, mais est-ce que c'est un choix à nous, dans quelle mesure c'est un choix à nous et tout ça donc.
Je pense qu'on vous pose la question aussi, est-ce que eux ils choisissent ou est-ce que c'est pas le système en tant que tel qui choisit? C'est-à-dire si on ne choisit pas un autre système économique, ils disent sans doute, moi je crois volontiers qu'ils font comme toi, ils font un constat de ce qui se passe autour d'eux, et puis ils disent soit mon usine ou mon pays coule, soit je baisse les salaires, je deviens plus compétitif. Et c'est ça le drame, c'est que personne ne choisit.
Ils sont tous plus ou moins déterminés.
Pas d'accord là-dessus de
Ah
nouveau, mais de toute façon, c'est une question qui décide de quoi et qui participe à ces choix. C'est une question qui déborde largement le cadre de la crise que nous voulons discuter au cours de ces émissions, parce que c'est une question qui a préexisté de tout temps et dans toute société. Ceci dit, il est bien évident qu'il faut la traiter aussi, mais moi je propose de la traiter plutôt à la fin de ces émissions, quand on discutera des issues possibles ou des remèdes possibles à la crise actuelle, parce que c'est précisément ces remèdes-là qui font intervenir les mécanismes, soit de la démocratie bourgeoise, soit d'un autre type de rapports sociaux qu'on pourrait imaginer. Donc, je crois qu'il faut pour le moment nous concentrer sur les questions plus proprement liées à la crise économique, à ces mécanismes qu'on ne
D'accord.
comprend pas toujours très très bien. Et puis, une fois qu'on aura déblayé le terrain, on pourra embrayer sur cette énorme question de la démocratie.
Question que soulevait ton résumé fait autour sur la crise, c'était celui du chômage, le pourquoi du chômage. Et aujourd'hui, on va commencer sur la déréglementation. Je crois que la toute première chose qu'on voulait faire, c'est de préciser un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire déréglementation. C'est un terme dont on parle beaucoup, mais qui a, je crois, plusieurs sens et dont tous ne sont pas clairs à tout le monde.
Fondamentalement, déréglementation, ça veut dire remettre tout en discussion. Si, au niveau de la technologie, de l'État, de la société, des réglementations, tout devient un peu statique et figé, les acteurs sociaux commencent à se sentir un peu, ils sont obligés de suivre des règles qui ne peuvent plus donner de suite. Alors, on décide à un moment donné qu'il faut tout recommencer à zéro. C'est à peu près ça. Recommencer à zéro dans ce domaine, ça veut dire changer les lois, changer les structures sociales, remettre tout le monde en concurrence avec tout le monde, et donc recréer un milieu où on essaye de pousser les gens à renouveler leur infrastructure sociale, leur infrastructure industrielle, leur outil de production, etc. Parmi les conséquences de ce genre de renouvellement, il y a des rapports différents entre le patronat et les syndicats, entre l'État et les syndicats et le patronat, entre les concurrents, entre les États, et ainsi de suite. La signification première de déréglementation est celle-ci, remettre les pendules à zéro et recommencer tout. Cette déréglementation est le résultat aussi d'une phase de maturité du cycle économique et techno-économique, c'est-à-dire technologique et industriel, qui arrive à figer un peu les structures existantes et qui les rend pratiquement inefficaces. C'est ce qu'on dit du moins. L'inefficacité, c'est un fait mesurable, c'est-à-dire l'inefficacité au niveau des profits, au niveau de la productivité, au niveau des innovations technologiques qui n'avancent plus comme avant, et ainsi de suite. Donc il faut à un moment donné changer les règles du jeu et recommencer à zéro. C'est un peu le sens de la déréglementation telle qu'elle a été appliquée en Angleterre et aux États-Unis, du moins au début. Par la suite, la déréglementation devient une manière d'éliminer dans les rouages de l'État ou de l'économie les choses qui gênent. Alors, par exemple, on déréglemente, mais ça veut dire, on élimine, par exemple, on essaie d'éliminer le département de l'éducation, le département de l'écologie, de l'environnement aux États-Unis, et toute une série de départements, de ministères qui ne correspondent plus au programme d'un gouvernement de type conservateur qui veut identifier l'État avec ses entreprises. Alors toutes ces surstructures qui gênent, il faut les éliminer. Ça aussi, c'est le deuxième sens de la déréglementation. Qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas, c'est une autre chose. Mais disons, il y a eu des essais dans le passé récent de déréglementer, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qui gênait pour la conduite d'une certaine politique économique.
Bon, là, ce que tu dis, recommencer à zéro, remettre les compteurs à zéro, c'est un petit peu neutre, je trouve. C'est un petit peu neutre parce qu'on ne se trouve pas dans n'importe quelle situation. Pour simplifier énormément, quand on part du libéralisme du 19e siècle, où le fondement de l'activité économique, c'est la concurrence entre des agents multiples, où les lois sont relativement minimes et laissent un espace d'action à tous ces agents, action qui trouve un équilibre dans la concurrence précisément, et où on estime qu'à partir d'un certain nombre d'expériences faites, entre l'offre et la demande s'établit un prix de transaction, c'est ça là, l'économie du 19e siècle. Il y a eu un grand bouleversement dans le 20e siècle qui a été amené par la crise de 1936 qui a marqué le glas de ce type de logique et où Keynes a réussi à proposer des correctifs. Il n'a pas proposé un autre système, c'est bien le même système qui fonctionne depuis 1936, mais la politique keynésienne, dont on parle encore aujourd'hui énormément, fait que l'État et les collectivités et les institutions qui font partie du jeu démocratique, c'est-à-dire la famille, l'Église, les syndicats, les partis politiques, etc., peuvent amener un certain nombre de correctifs à ces lois de la concurrence pure et parfaite, et que ces correctifs sont socialement acceptés et acceptables. C'est-à-dire qu'on ne peut plus licencier un ouvrier du jour au lendemain. D'ailleurs, on ne le paye plus au jour le jour, ce qui était le cas avant, en tout cas au 19e siècle. On ne le paye même plus à la semaine, on le paye au mois, maintenant. Quand on engage un employé ou un ouvrier, on l'engage sur un programme de travail qui va durer pendant plusieurs mois et probablement pendant plusieurs années. Et pendant toute une période de l'après-guerre, on n'engageait plus pour une période limitée, mais on engageait pour des périodes illimitées. Donc ce sont des changements de la structure dans le fonctionnement des activités économiques quotidiennes, c'est évident. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant avec la dernière crise en date, la nôtre, celle que nous vivons aujourd'hui, c'est que ces aménagements et ces contrôles qui sont faits sur le jeu de la concurrence apparaissent à qui ? Aux entreprises et aux patrons d'entreprises, apparaissent comme des freins à leur possibilité de changer d'activité, de réorienter leur production, etc. etc. Donc il faut, dans une première phase, disons, ça c'est le... Nous sommes encore dans la première phase de la crise où personne n'a de solution et personne ne sait comment on va en sortir. La réaction de celui qui a des positions à défendre, de pouvoir, d'argent, de richesse, c'est de se dire, le système actuel, des règles qu'on a mis en place, bon gré mal gré, après la Deuxième Guerre mondiale, ces règles ne fonctionnent plus. Nous ne connaissons pas encore les nouvelles règles qui nous permettront de fonctionner avec profit. Par conséquent, essayons de revenir aux anciennes règles qui, elles, avaient, en tout cas, fait leurs preuves au siècle dernier et encore au début de ce siècle. Ce qui fait que la déréglementation, pour parler très simplement, je ne dirais pas que c'est remettre les compteurs à zéro, c'est revenir à la solution libérale prévue par le 19e siècle. Et c'est une preuve, à mon avis, de faiblesse et d'inefficacité, que de vouloir résoudre la crise d'aujourd'hui avec des remèdes qui marchaient hier, et qui donc ont toute chance de ne pas tout à fait être adaptés à la situation actuelle.
Donc, ce que dit Jean-Noël, c'est très gentil, mais, et même c'est vrai, mais il y a aussi une réalité dont il faut tenir compte, c'est que quand un cycle économique arrive à épuiser toutes ses découvertes, c'est-à-dire si on arrive à la fin de l'histoire, au bout de 30 ans, 40 ans de découvertes et d'application de ces découvertes à la production, il manque à un moment donné les issues, c'est-à-dire le système se bloque parce qu'il n'y a plus d'issue possible en utilisant certaines technologies. Donc, il
Oui, mais
faut.
là, il me semble qu'il faut être assez clair dans ce qu'on dit, parce que, comme j'ai compris quand tu parlais de la fin d'un cycle, c'était la fin d'un certain cycle de produits, d'un certain cycle technologique. Donc là, je comprends très bien qu'à ce moment, bon, les frigos, ça fait plus de profit, il faut passer à l'informatique, par exemple, ou à des trucs beaucoup plus informatisés, des choses d'un autre niveau de technicité pour refaire les profits. Mais quand on déréglemente, ce n'est pas une question de changer de produit, c'est une question, effectivement, comme disait Jean-Noël, il me semble, d'abolir une série notamment d'acquis ouvrières pour pouvoir faire le capital pour passer au prochain
C'est
cycle.
pas seulement les acquis ouvriers, c'est tout. Parce que quand on arrive à une certaine maturité technologique, on arrive aussi contemporainement, la société n'est pas une société qui marche par étapes, disons, avec du retard, tout marche ensemble. Donc quand on arrive à une certaine maturité, c'est une maturité globale, maturité des institutions, maturité des cycles des produits, maturité des mentalités, les gens s'assoient dans une certaine routine, et donc c'est ça qu'on essaie de secouer. D'autre part, il est bien vrai qu'on est dans un scénario qui ressemble beaucoup à celui du 19e siècle. Et en fait, c'est aussi mon idée. La différence, c'est que, un, on est 100 ans plus tard et le contexte est mondial, mais mondial au sens réel du terme, parce que l'économie aujourd'hui n'existe plus en tant qu'économie régionale. Et deux, on est avec des technologies qui permettent la diffusion d'informations à une rapidité extraordinaire. Et trois, les volumes, les intérêts, l'argent qui est en jeu sont énormément supérieurs en volume et en qualité à ce qui était disponible il y a 100 ans. Mais je suis de l'avis que l'histoire se répète, et donc on est exactement dans une situation semblable à celle d'il y a 100 ans, mais dans un contexte différent qui est celui d'aujourd'hui. Donc les mêmes problèmes d'il y a 100 ans, les monopoles, ça existait aux États-Unis et en Angleterre en 1890, aujourd'hui ça existe encore plus, on y arrive. Aujourd'hui on a des alliances transnationales, carrément entre concurrents qui s'allient. C'est innaturel, mais ça se fait pour l'instant du moins. Donc je suis d'accord avec lui, on est en train d'arriver à une situation semblable, équivalente à celle d'il y a 100 ans. Donc l'histoire se répète, mais 100 ans plus tard, dans un contexte différent. Et c'est beaucoup plus grand et peut-être beaucoup plus grave.
Oui, parce que je crois que c'est toi-même qui l'as dit ça l'autre jour. Les mêmes personnes qui parlent de déréglementation, qui essayent d'éliminer la surveillance ou le contrôle gouvernemental, par exemple, de certaines activités d'affaires, ou qui essayent d'éliminer le monopole, le soi-disant monopole sur la force de travail qu'exerçait l'un syndicat. Ben, c'est les mêmes personnes qui sont en train de mettre en place des monopoles au niveau mondial qui réglementent alors totalement justement ce qui se passe. Donc il me semble que là, on est en train de tomber. On remet pas les compteurs à zéro, on renverse complètement les rapports de force.
On recommence un autre cycle, mais à partir de bases plus élargies. C'est-à-dire, autrefois, on avait des monopoles à l'intérieur de chaque État. Aujourd'hui, les monopoles sont donnés au mondial. Regardez le monopole, par exemple, des puces électroniques. Il y a deux producteurs qui font 90% des puces du monde, le Japon et les États-Unis.
Mais tout ça, c'est très vrai. Et si tu veux, je ne me battrai pas du tout pour dire qu'il n'y a pas une saturation d'un cycle ou état de léthargie ou enfin d'engourdissement des gens, des marchés, des produits et que le profit n'arrive plus à dégager. Ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que à partir de cette situation-là, où le problème essentiel du capitaliste, qui est celui de l'accumulation de son capital, de sa croissance, pour pouvoir le réinvestir et développer son affaire, ce profit ne vient plus, ou ne vient plus comme avant. C'est ça le problème de la crise d'aujourd'hui. Alors, voyant que le profit ne vient plus, le capitaliste aujourd'hui, c'est ça que je dis, n'a pas encore trouvé la solution miracle qui allait lui faire sortir de ce marasme, de cette fin de cycle, si tu veux. N'ayant pas trouvé de remède, je trouve, moi, un peu facile de dire on va en revenir aux règles du 19e siècle, du libéralisme et de la concurrence à tout va, parce que qu'est-ce qui paye? Comme d'habitude, c'est les petits, c'est les désavantagés, c'est les pauvres. Les riches, eux, ils s'en sortent toujours très bien. Il n'y a pas de problème pour eux. Et d'ailleurs, Olivier disait, posez la vraie question. Qui parle de déréglementation? Est-ce que c'est toi ou moi? Est-ce que c'est l'employé de commerce du coin de la rue? Est-ce que c'est le garçon du café? Non, il en parle, je veux dire, il en parle parce qu'il l'a subi. Mais c'est pas lui qui la décide. qui la décide, c'est bien l'entrepreneur, c'est le chef d'entreprise, c'est le détenteur de capital. Et celui-là revient à des méthodes qui sont aujourd'hui, je le prétends, périmées et qui ne lui apporteront rien de bien. Mais qui, en plus de ça, font souffrir des millions et des dizaines de millions de personnes parce que il y a tout le chômage des pays du Nord et il y a la situation dramatique du tiers-monde qui est due à cette politique de déréglementation qui se double, comme chacun sait, d'une politique de restriction de crédit, de hausse du taux d'intérêt qui met le couteau sur la gorge de tous les pays du tiers-monde qui sont endettés, comme chacun sait. Donc c'est une politique qui a des conséquences humaines dramatiques, criminelles.
Et puis d'ailleurs, je crois que c'est allié à l'instauration progressive d'une société de type dual, comme on dit justement, où de plus en plus grande partie de la population est déréglementée, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire, par exemple en Italie, je ne sais pas quels sont les chiffres, des gens disons, qui ont autrefois travaillé sous un contrat officiel avec des garanties sociales acquises par de longues luttes et tout ça, maintenant ils sont sans aucune sécurité, au noir, etc. Peut-être même dans la même boîte ils travaillent, mais disons sans plus. Donc ces gens-là ils ont été déréglementés parce que simplement moi je pense qu'on est arrivé à la fin d'une période, cette période keynésienne, où après la crise des années 30, des années 20-30, où il n'y avait plus assez de pouvoir d'achat pour acheter tout ce qui était produit, vu entre autres l'augmentation de la productivité. L'idée keynésienne, c'était simplement de donner aux gens suffisamment de pouvoir d'achat pour qu'ils puissent acheter ce qui est produit et relancer la machine. Or maintenant, ça ne marche plus. Tous ces acquis sociaux sont une gêne pour l'entreprise, pour rester concurrentiel au niveau mondial. Donc il faut renier sur le pouvoir d'achat. C'est comme ça que je le comprends.
Disons, oui, j'aimerais dire aussi comment moi je le vois, enfin un peu naïvement, et puis après tu me dis faire autre chose que ce que tu en penses, si tu es d'accord. Parce qu'effectivement, ce que dit Nicolas, ça me fait penser effectivement que le capitalisme keynésien, le fordisme, si vous voulez, enfin ce qu'on a vécu pendant les années du boom économique, enfin depuis 1936, ça avait quand même, c'est du capitalisme, mais qui était un tout petit peu intelligent, pour ne pas dire social, mais un tout petit peu intelligent dans le sens qu'effectivement, ils ont compris que pour faire marcher la machine bien, il fallait qu'ils distribuent assez de revenus pour que, effectivement, les consommateurs, la classe ouvrière, les travailleurs, etc., la population puisse absorber les produits. Et puis qu'on est arrivé, effectivement, à la fin de ce cycle, comme tu as expliqué très bien au début, où ce système de ne marchait plus, même en distribuant un certain revenu, les gens n'arrivaient pas à faire tourner la machine économique. Et puis, au lieu de réfléchir à autre chose, je sais pas, d'augmenter la distribution ou trouver un autre système, j'ai l'impression d'une espèce de vent de panique qui souffle, qui fait qu'on abandonne cette solution relativement progressiste, pour revenir à la concurrence à outrance entre pays, entre boîtes, et puis on arrive justement avec cette déréglementation à chacun pour soi des capitalistes, où effectivement, par exemple, les FMI qui va de pays en pays, et à chaque pays, son remède qu'il implique, c'est de dire il faut que vous exportiez plus que ce que vous importiez. Alors, ça tombe sous le sens, n'importe quel imbécile peut voir que tous les pays ne peuvent pas exporter plus qu'ils importent. Donc, c'est vraiment la concurrence érigée en principe stupide. Je veux dire, ça ne peut pas marcher. Et puis, à l'intérieur des pays, il me semble qu'il y a, c'est peut-être moins évident là, mais il y a le même phénomène dans le sens que on abolit tous les avantages sociaux, enfin les salaires sociaux de toutes sortes, les acquis sociaux, les acquis salariales. Donc la concurrence va faire que certaines boîtes vont effectivement faire un peu plus de plus-value, mais ils ne trouveront pas acheteurs ou d'autres boîtes ne trouveront pas acheteurs. Il me semble que c'est vraiment une chose pas seulement injuste, comme tu disais, Jean-Noël, mais aussi stupide, qui n'a pas d'avenir, qui ne sortira pas les gens de la crise, même en relançant la croissance encore. si on veut que la croissance soit ralentie.
C'est ce petit jeu que jouent les pays industrialisés aussi. Chacun dit, il nous faut exporter plus, il nous faut prendre plus de part à l'exportation, et chacun se plaint des deux maîtres d'école, si je peux dire, le Japon et l'Allemagne, parce que ces salopards de Japonais et d'Allemands bouffent trop du gâteau de l'exportation mondiale.
Et quand on dit déréglementation, etc., on a tendance à penser tout de suite d'une manière partisane. Mais tout le monde est dans le coup. Qu'on le veuille ou non...
Tout le monde est touché.
Tout le monde est touché et tout le monde est dans le coup. Et tout le monde est dans le coup, il ne faut pas...
Comment ça ?
Le monde est beaucoup trop petit aujourd'hui pour dire « Toi, tu es du côté des bons et toi, tu es du côté des méchants. » Qu'on le veuille ou non, tout le monde doit participer. Et une des choses que je reproche aux syndicats en particulier, c'est de jouer tout le temps le rôle des victimes et pas des acteurs. Il faut quand même qu'on se réveille si on veut éviter d'être, qu'on se fasse taper dessus. Premier point. Alors qu'ils le fassent un peu mieux, parce que tel que c'est maintenant, c'est pitoyable.
Peut-être qu'il y a une certaine tendance qui accepte d'être victime. Non, mais c'est trop important pour que je t'interrompe. Bon, alors vas-y, j'attends.
Alors, le problème concret, par exemple, ces acquis sociaux sont fantastiques. Mais quel est un des résultats de ces acquis sociaux ? C'est qu'un pays comme la Suède, ou comme la Suisse, ou comme la France, ou comme je ne sais pas quel pays, l'Italie, l'État arrive à prendre pour lui entre 50 et 65% de tout ce qu'on produit dans le pays. Mais évidemment, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup trop d'impôts directs, au point qu'aujourd'hui on ne peut plus les faire augmenter, et alors on commence à faire monter les impôts indirects, parce qu'on pense que c'est moins grave de payer 10% de plus sur un peu de pain et de viande que d'augmenter de 3% l'impôt direct. Donc, il y a des prix à payer. Donc, on commence à augmenter les impôts indirects et les impôts directs ont déjà atteint leur niveau de saturation.
Petite précision.
Attends,
quand tu dis... Non, parce que tu as avancé un chiffre et il faut vite le corriger avant qu'il fasse des trous dans l'esprit des gens. Quand on dit que l'État accapare plus de la moitié du produit national d'un pays, c'est faux. Dans la mesure où c'est des chiffres qui sont calculés sur des entités qui n'appartiennent pas au même tout. Si on fait un calcul économique correct, on arrive au fait que l'État effectivement pompe un certain nombre des ressources et des richesses du pays qui transitent par son appareil pour être redistribuées sous la forme de biens et services ou sous la forme de subventions et de transferts, mais que ces sommes qui transitent par son biais, en général dans nos économies des pays industrialisés du Nord, varient entre 20 et 30%.
Il me semble aussi que...
Donc, en concret, il y a une preuve que cela est vrai, et ce n'est pas une question d'idéologie, mais c'est un constat. Pourquoi il y a autant d'États endettés aujourd'hui ? Vous savez que, par exemple, le Danemark est en train de payer les intérêts de sa dette. Il n'arrive plus à rembourser le principal. Et il ne faut pas seulement penser au Brésil, il faut penser à l'Italie. L'Italie a une dette publique qui est supérieure à son produit national brut.
Il me semble que ça, c'est simplement une conséquence, effectivement, de la faillite progressive du keynésianisme. C'est qu'effectivement, l'État... Mais ça n'a rien à voir avec les acquis sociaux, parce qu'aux États-Unis, où il n'y en a aucun d'acquis sociaux, quasiment, il n'y en a jamais eu, ils ont réussi à faire la même chose en achetant des armes. Alors, il me semble que ça, c'est...
Il y a beaucoup d'acquis sociaux aux États-Unis aussi, au point que Reagan n'a pas pu les couper, parce qu'il...
Non, disons, relativement à la Suède, il n'y a rien... On peut dire. Pourtant, ils sont encore plus endettés. Et puis, cet argent, ils l'ont dépensé sur autre chose.
De toute manière, quelle que soit l'idée qu'on se fait du problème, il y a une espèce de mécanique, de logique intrinsèque au système. Et le système est en train de résoudre. Et ce n'est pas un jugement de valeur. C'est simplement, j'observe en tant qu'analyste ce qui se passe. Le système est en train de résoudre cette espèce de conflit d'intérêts global et particulier à chaque État. Cette espèce d'impossibilité de résoudre les problèmes sur une base de logique économique et sociale qui contente tout le monde d'une manière très brutale. Premièrement, la surproduction, la concurrence acharnée, la baisse des profits, a entraîné le protectionnisme, la dévaluation du dollar qui est manifestement très protectionniste de ce genre d'attitude, et c'est en train d'entraîner par exemple l'économie souterraine. Les gens, ils en ont ras-le-bol de travailler pour payer les impôts, donc ils se disent, il vaut mieux tricher. Donc il y a un développement gigantesque de l'économie souterraine dans tous les pays du monde. On calcule qu'aux États-Unis, elle fait à peu près 100 milliards de dollars. En Italie, c'est quelque part entre 20 et 25% du produit national brut. En France, c'est partout la même chose. Heureusement que les gens se sauvent comme ça.
Vous voyez ce que je veux dire ? D'autre part, une des conséquences de cette espèce d'impossibilité de mettre ensemble les choses et de mettre d'accord tout le monde, c'est ces grands discours qu'on fait aujourd'hui sur la coordination des politiques économiques. Ça veut dire quoi, coordonner les politiques économiques ? C'est la conséquence directe de la surproduction, de la maturité et de l'alternative ou grande bagarre qui débouche sur des guerres, ou coordination qui toutefois a une signification très précise, c'est-à-dire coordonner quoi ? C'est-à-dire que chacun son boulot, donc division internationale du travail, sous quelqu'un, sous la direction de quelqu'un. Maintenant, la grande bagarre, c'est qui va diriger cette coordination. Donc, une des conséquences de la déréglementation, qui est un produit d'une certaine maturité des mentalités, des structures, des sociétés, etc., c'est la déréglementation, c'est là, disons, le désordre. Ce désordre, maintenant, gêne tout le monde. Alors, on commence à dire, de tous les côtés, on commence à dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce désordre ? Alors, on parle, comme par hasard, à nouveau du standard or, de l'étalon or pour stabiliser les monnaies.
Mais si tu veux, c'est quand tu dis le système est en désordre, il est en train de générer moins de désordre, ou enfin de prendre la question en main pour lui donner une solution, tout ça, c'est de nouveau, c'est neutre, c'est vague, c'est en termes d'acteurs. Parce que je veux bien admettre qu'on vit dans un système, mais enfin, nous sommes des êtres humains, c'est pas un système ou une espèce de machine abstraite qui est en train de penser à notre place ou de résoudre les problèmes à notre place. Ce qui fait que la situation actuelle de crise, de gestation d'un ordre nouveau qui n'existe pas, fait que les acteurs, c'est normal, essayent de protéger leurs acquis. Alors évidemment, quand on protège son acquis, ça n'aide pas à progresser vers une solution. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ce qui me frappe, c'est que les acquis ont été inventés après la guerre, disons pour simplifier, à partir de 1940-45, ont été inventés pour le bien de ce système, comme tu dis. Bon.
N'oublie pas, et c'était une époque où tout marchait.
C'était une époque toute différente, je te l'accorde.
Tout marchait. Bon. On reconstruisait après la guerre. Tout le monde avait sa tranche de gâteau assurée.
Tout à fait. Ce que je veux dire, là où je veux en venir, c'est que ça a eu des conséquences économiques. Mais ça n'a pas eu que des conséquences économiques, ça a eu des conséquences sociales. Et culturelles d'ailleurs, et on pourrait en ajouter. Mais sociales dans ce sens que ces acquis font maintenant partie de la vie quotidienne d'une grande majorité des populations des pays industrialisés, et que si tu veux les mettre en cause, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être que ton système marcherait mieux si tu les mets en cause, ces acquis. Ce qui est sûr, c'est que la cohésion relative qui s'est créée serait immédiatement détruite, et que bouleversement social, et non plus économique, par bouleversement social, la machine économique serait arrêtée. Alors, Je te rappelle simplement le slogan de Mitterrand pendant sa campagne électorale, ne votez pas Chirac parce que Chirac c'est le chaos social. Moi c'est l'unité. Hein, c'était ce qu'il disait, c'était évident.
Mais je suis tout à fait d'accord sur ça.
Mais moi je voulais revenir un peu sur ce que tu as dit tout à l'heure quand tu parlais de l'exemple de la Suède. C'est pas du tout que je défends le tout État. Au contraire, je pense qu'on pourrait très bien remettre en question, rediscuter cet aspect, ce que tu dis sur le fait que le welfare state style suédoise endort tout le monde, emprisonne tout le monde, etc. Je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression que ceux qui dirigent le système ont utilisé très habilement ce ras-le-bol réel que les gens ressentent par rapport à l'état social, l'état maman-papa, pour mettre en question seulement certaines parties de cet état. Et qu'effectivement, il n'y a pas une discussion de tout le monde qui est concerné sur comment revitaliser ou changer ou de fond en comble notre système. Simplement, il y a, parce que quand même, quand, c'est trop facile justement de faire des discours du style de dire 60% de fric va à l'État. Mais quand même, il y a, sur ce 60%, il y a une grande partie qui passe par l'État et qui arrive à les individus. C'est une redistribution du salaire social qui... C'est peut-être pas une très bonne façon de le faire, parce que peut-être qu'il y a 15% qui restent en rade dans des bureaucraties, dans des dépenses stupides et ennuyeuses. C'est possible. Mais quand même, il y a les 45% qui arrivent chez les gens, je pense, sous une forme ou une autre. Je sais qu'en France, déjà, il y a quelques années, la moitié du salaire était versé. C'était un salaire social. Donc, c'est les gens qui le touchent et puis qui l'utilisent pour acheter des frigos, pour faire marcher l'économie, pour être heureux, pour vivre, etc. Et puis ça, je veux bien le mettre en question, mais en le mettant en question, en s'arrangeant pour que cet argent arrive directement aux gens au lieu de passer à travers l'État. Or, ce n'est pas ce qui se passe. On arrête cet afflux d'argent, mais je n'ai pas vu les impôts ou les dépenses de l'État ou les dettes de l'État, aucun État qui tombe. Au contraire, ils investissent dans l'armement, etc.
Parce que j'ai envie de prendre un exemple concret qui m'a fait réfléchir, c'est bon, le logement à Genève. Il existe la logique du prix du terrain qui fait que les choses se développent. Comment se développent ? Il y a eu des mouvements de quartier qui ont réagi. Par exemple, beaucoup de propriétaires ont laissé se dégrader les immeubles pour rénover, pour faire monter les loyers et pour que la rentabilité des placements immobiliers soit améliorée. Les mouvements de quartier ont réagi et il y a eu des luttes pour que l'État intervienne et mette un frein à la spéculation. Pas supprimer la spéculation, mais mettre un frein. Et puis ensuite, on est arrivé à un point... Ou alors évidemment la réaction du capital c'est toujours de fuir les endroits qui ne sont pas rentables, de construire plus assez, donc crise de logement et tout ça. Et après ils reviennent, disons ceux qui ont l'argent reviennent en puissance en disant mais écoutez il y a trop de règles maintenant, toutes ces luttes ont imposé tellement de règles qu'on peut même on a demandé une autorisation pour mettre un clou pour un tableau dans un appartement, donc il faut déréglementer. Mais en fait, on a rien résolu et je trouve que c'est une question... Maintenant, les mouvements de quartier se trouvent être en général bloqués par rapport à ce qu'ils étaient il y a 10 ou 15 ans. Et moi, je trouve que c'est un peu une question qu'on doit se poser à nous-mêmes. C'est... il ne suffit pas de faire pression sur l'État pour qu'il police les investisseurs, les spéculateurs, etc. Mais il faut se poser sérieusement la question qu'est-ce que c'est cette logique du prix du terrain ? C'est-à-dire comment l'argent règle l'attribution des terrains pour différents buts. Hein. Ça se règle à travers l'argent, c'est-à-dire à travers le prix du terrain. Et ça, c'est une manière irrationnelle de le régler. Et les mouvements de quartier n'ont jamais voulu aborder vraiment de fond cette question. Et là, on arrive dans l'impasse caricaturale, disons, si on regarde vers l'Est, ben c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'État qui intervient dans l'économie de plus en plus jusqu'au point où ça devient absurde.
Tu viens de poser le problème de l'argent, et effectivement, ce que tu dis sur le logement, qu'on pourrait reproduire sur les autres problèmes de la vie quotidienne, pose le problème de l'argent. D'où vient l'argent ? À quoi est-il utilisé ? Pour quel usage est-il utilisé ? Et est-ce que l'argent est...
Est-ce qu'il nous utilise ?
On pourrait tourner la chose comme ça. Et surtout... Est-ce qu'il y a encore une relation entre les biens et services qui sont produits et consommés et la quantité d'argent qui circule ? Ça, c'est la première question. L'autre question qui est immédiatement liée à ta question du logement, c'est de savoir si on continue de produire des biens utiles, socialement utiles, ou si cette logique de l'argent peut très bien se contenter ou se satisfaire de production qui ne serait pas justifiée du point de vue social ou du point de vue du besoin des gens, mais qui en revanche aurait le grand avantage de rapporter plus de profit.
Un grand soupçon là.
Et là, le fait est que on tombe à pieds joints dans le problème de l'écologie, parce que dès le moment où on ne produit plus en fonction d'une utilité sociale précise, on peut se permettre de produire n'importe quoi, notamment des nuisances. Voilà, notamment des nuisances.
Là. Excuse-moi. Je crois qu'en fait, on ouvre sur une autre question et je crois qu'on va l'aborder bientôt.